Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 568 du podcast Agent Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour parler de la suite de la saison NFL et à la fin de la saison régulière. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Comment ça va, Victor ?
Eh bien, ça va bien, ça va bien. Écoute, on essaye de reprendre le fil normal, entre guillemets, de la NFL après les événements de ces derniers jours. Et d'événements lundi surtout. Donc le temps est un peu suspendu. C'est très bizarre cette fin de saison.
Je crois qu'en effet, tu ne pouvais pas le mieux résumer. C'est extrêmement bizarre. On a, au moment où on enregistre, on est sur une journée où il y a eu le moins d'infos probablement de l'histoire du site, puisque tout est à l'arrêt.
Voilà. Ah bah, là, il n'y a eu aucune interview, aucune conférence de presse. On n'a pas non plus de détails sur l'état de santé du joueur. Donc. Voilà, le temps est suspendu.
C'est ça. En tout cas, au moment où on enregistre, ça aura peut-être bougé dans les heures suivantes au moment où vous nous écoutez, mais en tout cas, au moment où on enregistre, en effet, on n'est pas beaucoup plus avancé. Vous le verrez au fil de l'émission, je le précise d'avance, on n'a pas vraiment les scénarios précis pour certains matchs de l'AFC, puisque on n'a pas non plus l'issue du match entre les Bengals et les Bills. Donc, on aura des scénarios plus précis pour la NFC et... Grosso modo, on a quand même les enjeux hein, pour la conférence AFC, mais voilà, ça va être un petit peu particulier. Et encore une fois, on est dans une ambiance un petit peu particulière, comme on l'a dit. On avance tout de même au niveau de l'émission, au niveau de la NFL probablement, parce qu'il faudra bien que ça reprenne un moment. Donc voilà, on a fait le choix de continuer et c'est parti pour les affiches de la semaine. Et des affiches, il y en a deux cette semaine, c'est pour ça qu'on n'a pas de débat particulier. On a choisi deux affiches qui sont les deux finales, hein, grosso modo, Victor, on peut dire ça comme ça, puisque c'est en tout cas les deux matchs où les équipes ont leur destin en main dans la course aux playoffs. La première, c'est celle entre les Jacksonville Jaguars et les Tennessee Titans. 8 victoires, 8 défaites pour Jacksonville. 7 victoires, 9 défaites pour Tennessee. Donc Tennessee a un match de retard, mais s'ils gagnent, ils auront le tiebreaker. La question, Victor, c'est est-ce qu'il y a match ? Parce qu'on l'a mis en affiche, parce que c'est une finale, que c'est quasiment le premier match des playoffs, on pourrait dire aussi. Mais est-ce qu'il y a match ? Il y a 4 victoires de suite pour les Jaguars contre 6 défaites de suite pour les Titans. Les dynamiques ne pourraient pas être plus opposées.
Il y a toujours match parce qu'on est en NFL, parce qu'il n'y a aucun match qui est gagné et qu'on a vu des plus grosses surprises dans l'histoire. Après, c'est vrai que la logique sportive voudrait que Jacksonville continue sur une dynamique qui est assez formidable, il faut le dire. En attaque comme en défense, ça déroule. Donc Pederson prouve qu'il n'était pas seulement l'homme d'une belle campagne pour les Eagles, mais que c'est un vrai bon coach. Tout le monde est rassemblé autour de lui. Trevor Lawrence fait une deuxième saison quand même très intéressante. Il a beaucoup de cibles. La défense a des playmakers. Et en face, bah, on ne voit pas trop, à part l'inusable Derrick Henry, et encore, il commence à s'user un peu en cette fin de saison, bah, on ne voit pas trop qui peut répondre en face, quoi.
Clairement, pas de Ryan Tannehill, Josh Dobbs titulaire, des blessés un petit peu partout. Comment ils pourraient s'en sortir ? Le premier match, les Jaguars ont gagné 36-22. C'était le premier match de leur série de victoires, d'ailleurs. Trevor Lawrence avait été impeccable avec 368 yards et 3 touchdowns. Comment, c'est quoi le scénario où Tennessee gagne quoi, dans ce match ?
Bah pour moi, le scénario où Tennessee gagne, déjà, ça passe par une ligne défensive qui bouffe complètement la ligne offensive des Jaguars. Hmm. C'est-à-dire les Simmons, Dupri et compagnie doivent profiter d'une des rares faiblesses criantes de Jacksonville qui est inoffensive, et ils doivent mettre une pression telle que Etienne ne peut pas prolonger les courses et Lawrence ne peut pas développer le jeu de passe. Je pense que de toute façon, s'ils veulent gagner, les Titans ne vont pas marquer 30 points. Donc s'ils veulent gagner, il va falloir limiter Jacksonville à 10, 13, 16, quelque chose comme ça.
Ce qui va pas être facile, hein, sachant que Jacksonville a marqué sur les derniers matchs 31, 19, 40 et 36. Donc il y a quand même du monde. Et tu le disais, la ligne offensive, je vais pas dire que c'est une faiblesse relative, mais au final, il prend que 3 sacks sur les 4 derniers matchs.
Non, mais on est d'accord. Mais après, c'est aussi parce qu'il libère le ballon vite, parce qu'il y a une utilisation du jeu de course, parce qu'il y a un plan de jeu qui est adapté. Mais l'attaque reste quand même un petit peu limitée par ce groupe. Mais encore une fois, tu vois, tu as un Christian Kirk dans le slot. Qui va venir défendre ça du côté de Tennessee ? C'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse là-dessus.
Dans l'autre sens, les Jaguars prennent 20,9 points par match. Ils sont 13e en NFL, donc ils sont plutôt dans la moyenne. Mais ils n'ont pris que 3 points par match sur les deux derniers matchs. Ils n'ont pris que 6 points au total sur les deux derniers matchs, en fait. C'est une défense qui est en progrès, Victor. Est-ce que là, face à une équipe, encore une fois, très dépeuplée, en fait, c'est pour ça que je demande s'il y a match, c'est que tu as l'impression qu'ils peuvent encore en fait limiter Tennessee à, je sais pas, 3, 6, 9, 10 points. Et en fait, ça...
Ouais, bah, je pense que le plan de jeu, il va être assez simple. Hein. Renforcer la boîte pour être sûr de contenir Derrick Henry et puis forcer Tennessee à lancer le ballon parce que, bon, avec tout le respect que j'ai pour Dobbs, c'est quand même pas un foudre de guerre, donc théoriquement ça va être plus d'erreurs que de réussites. Donc pour moi la clé c'est stopper la course. Si la course est stoppée, ils feront les jeux en défense pour ils provoqueront des pertes de base sur le jeu aérien et ils peuvent gagner comme ça. Donc je serais pas étonné de voir beaucoup de jeux avec 7 joueurs dans la boîte, voire parfois 8.
Le point faible, en tout cas, la petite faiblesse de cette équipe de Jacksonville en défense encore, c'est les troisièmes tentatives où ils autorisent 43,8% de conversion, pardon. C'est le quatrième plus mauvais total en NFL et 60,8% de touchdowns autorisés dans la red zone. C'est l'axe de progrès pour les jeunes défenses, ce genre de solidité, Victor ?
Oui, c'est être décisif au bon moment. Après, voilà, encore une fois, c'est... Si t'es en 3e et 8, c'est Dobbs en face, hein. C'est pas Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes. Donc, je pense qu'on est obligé d'en parler en premier parce que c'est le match où les deux équipes ont leur destin en main. C'est vraiment win and in, comme on dit. Mais en vrai, il y a un énorme favori.
Bon, en tout cas, on va pas non plus vendre la peau de l'ours et on en reparlera éventuellement dans le débrief. Si Jacksonville atteint les playoffs pour cette première saison de Doug Peterson, ce sera quand même déjà une très très belle réussite. Hein. Ce serait vraiment une belle récompense. Pronostic, scénario du match pour toi, comment ça va se passer ?
Bah écoute, je vois une victoire facile, donc évidemment ce sera inverse hein, parce qu'on est en NFL. Mais
si on perd à la dernière seconde.
C'est ça exactement. Mais j'imagine une victoire 28-10, tu vois, quelque chose de carré. Bon, pour Jacksonville, évidemment.
Ouais, j'ai du mal à voir les Titans en mettre plus de 13 ou 15, quoi. Donc à partir de là, un 23-10 ou 23-15, ça me choquerait pas non plus. Donc Jacksonville pour tout le monde. La deuxième affiche de la semaine, elle oppose les Packers aux Lions. 8 victoires et 8 défaites pour les deux équipes. Ça va se jouer à Green Bay. 4 victoires de suite pour les Packers qui sont complètement relancés et qui ont leur destin en main, ce qui est quand même assez dingue quand on se rappelle qu'ils étaient à 4-8 avec d'énormes difficultés offensives et défensives d'ailleurs. Ils sortent d'un énorme match défensif contre les Vikings, ils ont notamment été très forts sur le pass rush. La question évidemment c'est est-ce qu'ils peuvent faire aussi bien pour stopper Détroit ?
Bah écoute, on aimerait croire à cette défense qui est... Avant le début de la saison, moi, je pensais que c'était la potentielle surprise. Je pensais vraiment que les Packers pouvaient être menés par cette défense. Finalement, elle a quand même montré des faiblesses, notamment en défense de course, toute la saison. Donc, il va falloir être bien meilleur. Mais après, ils sortent quand même d'un match référence. Jair Alexander sort du meilleur match de sa saison, sachant que c'est lui, je pense, qui va devoir se coltiner Christian Watson. Bon,
attends, oui, Alexander,
pas Christian Watson, Amon-Ra St. Brown. Pardon. Bon, je pense que là encore, il va falloir que la défense reste à ce niveau-là, parce qu'on l'a vu, si tu laisses Détroit dérouler, ça peut aller très vite. Hein. Tu peux t'en prendre 30 sur le museau très rapidement.
Ben c'est ça en fait, et j'ai presque envie de dire que c'est un test supplémentaire par rapport à Minnesota sur la, comment dire, sur la défense, parce que Amon-Ra St. Brown, oui, mais DJ Chark, TJ Hockenson, DeAndre Swift, Jamal Williams, et
pas,
surtout...
Pas Hockenson, il est aux Vikings.
Mais... Il est aux Vikings, pardon, c'est vrai qu'il a bougé, autant pour moi, c'est parce que je parlais des Vikings en même temps. Donc surtout une bien meilleure ligne offensive, seulement 23 sacs autorisés, deuxième en NFL derrière les Buccaneers, donc... Ils ont peut-être pas, comment dire, un Jefferson et Kirk Cousins, mais encore il y a discussion entre Goff et Cousins en ce moment. Mais tu vois, ils sont quand même face à une meilleure ligne défensive. Ça va être vraiment vraiment intéressant et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, en fait, les lignes vont être la clé de ce match parce que dans l'autre sens, le pass rush, Aidan Hutchinson, James Houston, etc. montent en puissance. Et donc ça va être aussi une des clés du match s'ils arrivent à forcer Green Bay à lancer, parce que on en a parlé un peu dans le débrief, mais est-ce que la tactique numéro 1 de toute façon pour Green Bay, ce sera pas là encore d'attaquer les tranchées? Les Lions autorisent 5,3 yards par course, ils sont très faibles contre le sol, il va falloir aller par là.
Mais oui, et je pense que ce qui a coûté beaucoup de matchs à Green Bay cette année, c'est qu'il y a des semaines où LaFleur ne fait pas confiance au jeu de course. Et tu comprends pas vraiment pourquoi, parce que la réalité, c'est que le jeu de course est létal depuis le début de la saison. Il y a quand même Aaron Jones, il y a A.J. Dillon, enfin, c'est des grosses, grosses, grosses équipes. Donc, pour moi, oui, la clé, ça va être de courir, parce que cette défense de Détroit, elle est quand même limitée, et quand il s'agit de défendre la course, bah, ils ont parfois du mal. Donc, en plus, ça permet de contrôler l'horloge. Si tu contrôles l'horloge, tu passes plus de temps sur le terrain. Donc, par définition, tu donnes moins de munitions à l'attaque de Détroit. Clairement, pour moi, le match parfait, je vais être presque provocateur, mais le match parfait, c'est Aaron Rodgers qui lance 15 passes, quoi.
Non, mais clairement. Enfin, clairement, pour moi, c'est la clé du match. C'est-à-dire que, est-ce que LaFleur fait confiance à son jeu de course? Combien de temps il lui fait confiance? Est-ce que Aaron Jones et A.J. Dillon répondent rapidement à l'appel si on leur fait confiance? Pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là que ça va se jouer, parce que en plus, c'est la faiblesse des Lions, qu'on les a vus prendre des wagons de yards au sol sur certains matchs. Donc à partir de là, bah oui, c'est ça qu'il va falloir exploiter. Et si tu l'exploites, normalement, t'es en bonne position. Et tu le disais, si en plus ils rendent le ballon vite et que tu multiplies les offensives des Lions, tu multiplies le nombre de fois où tu vas pouvoir prendre des points. Donc pour moi, ça va être ça la clé de ce match. Est-ce que les Packers vont l'exploiter? C'est le moment du pronostic.
Écoute, oui, je mise sur les Packers. Alors, je vais être un peu désolé les fans des Lions, mais faut quand même le dire, c'est que les Lions ne pourront aller en playoff que s'ils gagnent et que si avant les Seahawks sont perdus. Donc, il y a aussi un scénario où ils arrivent dans le match et ils sont déjà éliminés. Après, ça reste un match de division. C'est aussi pour ça que la NFL met des matchs de division en dernière semaine. C'est que tu as toujours quand même un plaisir à taper un rival. Donc, ils vont jouer le coup à fond. Mais sur la dynamique, là encore, je mets plutôt les Packers.
Moi, ça m'embête vraiment cette histoire de match pas programmé au même moment. Je trouve ça un peu dommage que les Lions arrivent peut-être avec un petit coup au moral d'avoir regardé leurs espoirs de playoffs s'envoler juste avant. Ceci étant dit, je pense vraiment. C'est marrant parce qu'au début, tu vois, j'étais parti pour titrer l'émission sur l'heure de vérité pour les Lions, etc., etc. En fait, j'ai abandonné le truc parce que je me suis dit, mais non, en fait, c'est trop tard. C'était contre les Panthers, l'heure de vérité, ils l'ont raté.
Bah oui. La réalité, c'est qu'ils auraient battu les Panthers, ils avaient leur destin.
Bah, c'est ça. Et je trouve que voilà, c'est malheureux, mais cette équipe-là, elle a raté le coche, en fait. Alors évidemment, tu peux pas demander de. Je sais plus, ils étaient sur combien de victoires. Ça aurait fait une saison de victoires, une série de victoires quasiment incroyable pour finir. Mais tu peux pas perdre un match contre les Panthers quand tu veux aller au bout. Les Buccaneers l'ont montré la semaine dernière. Donc. Moi, si le match s'était joué vraiment au même moment que les Seahawks, tu sais quoi, je vais quand même aller dessus, je vais dire les Lions. Parce que je vais être foufou, je vais tenter le point, parce que vous avez tous mis les Packers, donc je vais tenter de gratter un point. Et je vais miser sur Mike LaFleur abandonne trop vite le sol, les Lions flambent un peu en attaque, Aaron Rodgers force et fait une erreur, et les Lions. Voilà, je suis.
Mais c'est pas impossible, hein. On n'est pas sur un. Enfin, autant j'ai des doutes sur Tennessee, autant j'ai aucun doute sur le fait que Détroit peut gagner ce match.
Ouais, ouais. Donc je vais dire les Lions. Les autres pronostics, c'est maintenant. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir! And we're gonna work on three! One, two, three, work! Les pronostics de la semaine. Pas de hypomètre hein, cette semaine. On va être par enjeu parce que ce sera un peu plus simple. Sinon, on va vraiment tout mélanger. Les pronos, donc 160. Alors, attendez, c'était quoi les scores de la semaine dernière? 12 pour Raphaël, pour Grégory, pour Victor. 11 pour Raoul et moi. 10 pour Lucas. Au niveau du classement général, avant la dernière semaine de saison régulière, ça donne donc Grégory à 160. 158 pour Victor et moi. 156 pour Raoul. 155 pour Raphaël. 151 pour Lucas, donc tout le monde se tient en 9 points. On rappelle que ça vaudra 2 points par match pendant les playoffs, donc il y a encore tout est jouable encore, et notamment pour les premières places. Donc pas de hypomètre, on a dit, donc c'est moi qui vais mener la danse pour les matchs et donner les scénarios au fur et à mesure. Bills Patriots, c'est dimanche à 19h. On l'a pas précisé encore, hein, mais on disait qu'on savait pas trop ce qui se passait avec le Bills Bengals, mais la NFL en tout cas a expliqué qu'elle ne modifiait pas le calendrier de la semaine 18. Donc pour l'instant, a priori, ce que vous entendez, ça ne bouge pas. Dimanche à 19h, le Bills Patriots. Les Patriots gagnent et ils sont en play-off. Mais en face, c'est les Bills.
Oui, les Bills qui ont encore beaucoup à jouer, puisque donc Bills, Bengals et Chiefs sont encore dans la course au seed numéro 1. Ouais. Donc, alors, ce qui complexifie énormément les choses, c'est évidemment qu'on n'a pas le résultat du Bills-Bengals. Puisque c'était censé être le match clé pour ce seed numéro 1.
Mais c'est vrai qu'en cas de victoire des Bengals, non, ça aurait fait 12-13, donc ça, c'était pas fini non plus.
Bon, non, okay. non, c'était pas fini. Donc, clairement, bah, quand même, on a trois équipes qui sont peut-être les trois favoris au Super Bowl. Avoir une semaine de repos et être sûr d'être à domicile contre ces équipes-là, C'est quand même quelque chose de très très important. Donc les Bills doivent gagner. Après, dans quel état mental sont les Bills? Ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne peut pas savoir. Alors les dernières nouvelles ont l'air plutôt positives, enfin en tout cas on l'espère, donc on peut espérer que ça rende entre guillemets le match un tout petit peu moins dramatique. Mais c'est sûr qu'en face, les Patriots... Bah, moi, en fait, ce qui me gêne avec les Patriots, c'est que depuis le début de la saison, quand ils ont des matchs où ils sont favoris ou des matchs 50-50, ils les gagnent, globalement, à une ou deux exceptions près. Quand ils sont pas favoris, ils se font exploser parce qu'ils manquent de talent, notamment en attaque. Et bah face aux Bills, il manque de talent, quoi. Donc
ils ont perdu 24-10 à l'aller. Hein.
Ouais, je vois pas bien comment cette attaque pourrait étirer la défense des Bills. Donc je reste, pour moi, le gros favori, c'est Buffalo.
Donc Buffalo. On est d'accord
pour ouais, ouais.
Bon, si les Patriots perdent, derrière, les Dolphins affrontent les Jets. Et là, les Dolphins peuvent se qualifier avec une victoire plus la défaite des Patriots. Les quarterbacks des Dolphins, ce sera le quarterback des Dolphins, ce sera Teddy Bridgewater ou Skylar Thompson. On sait que Tua Tagovailoa ne jouera pas ce match. Face à la défense des Jets, qui est quand même pas mal, qui a besoin de sauver l'honneur, qui a déjà battu Miami cette saison, moi je vais te dire, je prends les Jets.
Bah moi, au début, j'avais pris les Jets et puis j'ai un peu changé d'avis. Bon, alors c'est clairement un 50-50. Je pense malgré tout que Miami peut ou doit faire le push pour cette qualification. Ils ont quand même toujours des playmakers, ils ont toujours Tyreek Hill, ils ont toujours Jalen Waddle. Même en défense, il y a des playmakers aussi. Et du côté des Jets, bah, c'est quand même difficile à digérer. Hein. Tu étais sur l'autoroute pour les playoffs, ils sont à 8-4 ou un truc comme ça.
Oui, ils étaient dans ces eaux-là, ouais, 7-4 ou 8-4, un peu comme les Seahawks. Ouais.
Et puis là, ils font défaite sur défaite sur défaite sur défaite. T'as des blessures qui sont venues s'accumuler. T'as une ambiance qui commence à s'alourdir. T'as le cas Zach Wilson. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Donc, je vais quand même donner les Dolphins, d'autant plus qu'ils sont à domicile. Je pense qu'ils vont faire le travail, mais oui, c'est un match totalement incertain.
Ils étaient à 7-4 et ils sont à 7-9. Donc, je prends la victoire des Jets pour sauver l'honneur. Les Steelers contre les Browns. Si les Patriots perdent, si les Dolphins perdent, je suis dans mon scénario pour l'instant. Les Steelers peuvent se qualifier pour les playoffs avec des défaites des Patriots et des Dolphins et une victoire contre les Browns. C'est un match très difficile qui va sûrement être très difficile à regarder d'ailleurs, hein, parce que Pittsburgh marque même pas 18 points par match. Les Browns, c'est à peine plus. Ça va être très compliqué, ça va être un match de division en plus. Victor, est-ce que Pittsburgh peut encore, j'ai envie de dire, s'en sortir? Parce qu'on a l'impression qu'ils s'en sortent tout le temps au raccro et à l'intelligence cette année. Ils ont perdu, hein, les Steelers, leur premier match contre les Browns, 29-17 en début de saison. Sur le talent, il n'y a presque pas photo, au sens où tu as l'impression que les Browns ont quand même plus de talent.
Oui. Mais pour moi, je vois quand même les Steelers devant. Pareil, la dynamique. Faut quand même rappeler que, comment dirais-je, Mike Tomlin n'a jamais connu une saison négative de toute sa carrière. Donc, c'est-à-dire que s'il gagne symboliquement, ça continue. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Ils ont quand même une bonne étoile. À chaque fois, ils s'en sortent dernière minute sur un touchdown et tout. Je pense que les Browns arrivent en bout de course. Il y a aussi beaucoup de questions. Il y a un Deshaun Watson qui est toujours perdu. Là encore, en plus, c'est à Pittsburgh. On sait à quel point l'ambiance va être électrique. Donc, je mise Pittsburgh.
Je mise Steelers aussi, ça va pas être facile. Je mise Steelers presque parce que j'ai envie que Mike Tomlin prolonge sa série, parce que je trouve que ces séries-là sont quand même incroyables. Je trouve ça presque dommage, bon, qu'il y ait le match supplémentaire là, qui fait qu'on puisse plus être à l'équilibre, mais en tout cas, je trouve ça assez incroyable, donc je mise sur eux. Après, méfiance quand même, il y a une bonne deuxième mi-temps des Browns la semaine dernière, et encore une fois, je dis pas qu'ils vont être phénoménaux, je dis juste qu'il suffit de marquer 20 points a priori pour battre les Steelers. Et les Browns peuvent le faire, ça me semble pas non plus complètement délirant, donc je serais pas étonné. Pour moi, il y a un scénario en fait où les Patriots sont qualifiés en playoff parce que les Patriots sont perdus, parce que les Dolphins sont perdus et parce que les Steelers sont perdus aussi en fait, dans cette course, tu vois.
Ah ouais,
pour moi ils peuvent tous les trois perdre, de toute façon c'est des équipes qui en vrai, voilà, te montrent que élargir les playoffs à cette équipe, ça servait pas à grand chose, parce que...
Oui, certes. Bah, du côté de la NFC, ça peut servir, parce que, regarde, les Packers, ils vont finir 7. Imaginons, là, ils finissent avec 5 victoires, etc. Est-ce que tu as envie de prendre Aaron Rodgers en playoff?
Non, mais alors, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est mon côté toqué, hein, mais c'est tous des équilibres. C'est-à-dire qu'on peut plus. Il y a un nombre de matchs impairs, il y a un nombre d'équipes qualifiées impairs, il y a un nombre de bye week impairs. Tout ça, ça me gave. Faut rééquilibrer tout ça. À la limite, mettez-moi 8 qualifiés, 18 matchs, 8 qualifiés, 2 semaines de repos. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Moi, c'est plus ça qui m'agace. J'en peux plus de ce déséquilibre de chaque côté. J'en peux plus qu'on puisse plus avoir des bilans équilibrés. Bref, Steelers pour tout le monde. Alors, ces trois matchs se joueront en même temps à 19h. C'est pour ça qu'on les a fait au début. Bills, Patriots, Dolphins, Jets et Steelers Browns, c'est à 19h et ils joueront en même temps. Donc, il faudra vraiment qu'ils regardent les uns les autres. Raiders, Chiefs, ça, c'est samedi à 22h30. Parce que oui, on a mis des matchs le samedi maintenant la dernière semaine. Les Chiefs sont dans la course à la première place. Tu le disais, on n'a pas de clarté par rapport aux paramètres, par rapport pour avoir la première place, vu qu'on ne sait pas ce qu'il advient du Bills Bengals pour l'instant. Les Chiefs donc affronteront Jared Stidham, deuxième match pour lui en face. Ça semble dur de suivre pour les Raiders, mais les Raiders embêtent souvent les Chiefs. Dans le dernier match, les Chiefs gagnent que 30 à 29, encore une fois. Comment ils arrivent à les gêner autant, d'ailleurs, ces Raiders? On se demande toujours comment.
Ah, tu sais, il y a des sortes de logique de division qui échappe toujours aux choses. On en parlera un peu plus tard, mais par exemple les Commanders s'embêtent toujours les Cowboys, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est très étonnant. Après, ils affrontent le meilleur quarterback de la ligue, qui est Jared Stidham, hein, tout le monde le sait. Mais non, je pense que les Chiefs normalement doivent se faire au travail. Les Raiders vont mieux. Parce que, bon, emmener San Francisco en prolongation et leur foutre pas loin de 500 yards, bah, c'est quand même pas n'importe quoi, hein, on va pas se mentir. Je pense que c'est un match qui va avoir des points, mais un peu comme toujours, un peu comme contre les Titans, un peu comme contre les Texans, etc., etc., les Chiefs vont trouver un moyen de s'en sortir.
Les Chiefs du futur MVP Patrick Mahomes, ultra favori.
Là, je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat.
Et mérité.
Ce qui est incroyable, comme je disais sur Twitter, c'est que, je veux dire, le mec fait 5 milliards et 40 touchdowns, et on en vient à se dire, oh, c'est un peu moyen par rapport à ses standards. Hein.
Non, mais je suis d'accord. Il peut nous remercier pour le coup de pouce qu'on lui a filé en descendant vraiment avec une jinx les principaux candidats, les principaux autres candidats, mais en vrai, il le mérite largement, du coup, surtout plus après ce qui s'est passé la semaine dernière.
Non, mais on est tellement biaisé par ce mec, c'est voilà. Juste... Il a rendu... l'extraordinaire normal.
Ouais, bah je mange mon chapeau par rapport à la semaine dernière. Les Chiefs pour tout le monde, donc, si je comprends bien.
Oh oui, quand même.
Eagles, Giants, c'est dimanche à 22h25. Les Eagles qui peuvent être premiers de la conférence s'ils gagnent. En théorie, on a le retour de Jalen Hurts. On ne sait pas si les Giants vont faire jouer tous leurs titulaires, puisqu'ils sont déjà qualifiés pour les playoffs, et si je ne dis pas de bêtises, ils ne peuvent pas bouger.
Non, ils sont 6, quoi qu'il arrive.
Voilà, ils sont 6e. Donc, c'est un match difficile à prédire. Bon, a priori, pour les Eagles, il y a un intérêt à jouer à fond, il y a un intérêt à faire revenir Jalen Hurts, donc voilà, on pronostique Eagles pour ça, si je comprends bien.
Oui, Daboll a dit qu'il ferait jouer titulaire, mais enfin, après, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. D'un côté, il dit qu'il va faire jouer titulaire, et d'un autre côté, il a dit que les titulaires étaient en vacances lundi-mardi. Bon, si les mecs commencent à être en vacances, tu te dis qu'ils vont peut-être pas jouer le match à fond. Je pense que les Eagles, ils ont grillé 2 cartouches, ils sont dos au mur. Pour être premier de conférence, il faut gagner celui-là. C'est à domicile, c'est une équipe qui leur réussit historiquement bien. Jalen Hurts devrait revenir, même si voilà, on est toujours dans l'incertitude au niveau des blessures, on le sait, mais les premiers échos, c'est qu'il reviendra. Bon, là, normalement, ça devrait le faire. L'absence de Lane Johnson fait très mal, peut-être encore plus que celle de Jalen Hurts, parce que le jeu de course et le jeu de passe, tout est basé autour de Lane Johnson. C'est peut-être une des seules équipes où le tackle droit est plus important que le tackle gauche. Donc, attention, mais bon, voilà, il se peut que Thibodeau mette bouillon à Driscoll, ça, ok. En attendant, ça devrait passer, ne serait-ce que parce que les Eagles ont plus de talent, hein, de base. Et voilà, le contexte fait qu'il y a une équipe qui va jouer à 100%, l'autre pas forcément. Le retour de Jalen Hurts, on a vu à quel point les petites courses de Jalen Hurts ont manqué en 3 et 4 aux Eagles. Il aura peut-être pas 100% de son bras, mais il aura 100% de ses jambes. Donc, rien que ça peut suffire.
Les Eagles pour tout le monde. Donc, Seahawks, Rams, 22h25 dimanche. Les Seahawks sont en playoff s'ils gagnent contre les Rams et que les Packers perdent contre les Lions. Seattle a gagné le match aller. Est-ce qu'il faut se méfier de ces Rams? On parlait de rivalité de division. Bon, il y a Kamakers en pleine bourre. Et si tu veux une stat, il y a eu 4 matchs depuis que Baker Mayfield a pris les commandes. Ça fait victoire-défaite, victoire-défaite. Donc la suite, normalement, c'est victoire. Ils font un match sur deux.
Écoute...
C'est ESPN Megastat, là, hein, t'as vu.
J'aime le chaos. Et j'ai envie d'avoir une finale Lions-Packers.
Ce serait bien. Les fans des Seahawks, mais...
Ouais, mais on sait à quel point cette NFC West est complètement imprévisible année après année après année. Les Rams, ils ont quand même foutu 51 points il y a deux semaines, hein. Donc bon, ils sont pas non plus à l'agonie, c'est pas les Colts. Écoute, honnêtement, moi, pour la beauté du geste, je vais parier les Rams, parce que je vois un monde où il y a un mème qui était rigolo, qui a été partagé par CioxFR, qui est aussi un membre de TDA, qu'on salue, qui disait, où tu vois McVay qui dit, ah, c'est une belle chance que vous puissiez aller en playoff. Ce serait vraiment dommage que quelqu'un vienne vous battre. Tu vois. Et j'imagine tellement le Cam Akers et Van Jefferson qui vont marquer des touchdowns, Geno Smith qui fait son mauvais match de la saison, la défense des Seahawks. En fait, la clé, c'est la défense des Seahawks. Hein. C'est la défense des Seahawks, c'est une fois sur deux. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est cata, c'est cata. Surtout contre la course. Donc, je vais jouer les Rams. Mais bon, j'ai conscience que je perds sûrement un point là-dessus, mais... J'aime imaginer ce scénario. Alors, désolé pour les fans des Seahawks, mais j'aime le chaos.
Le scénario me fait marrer aussi. Je vais parier les Seahawks quand même. Broncos Chargers, dimanche 22h25. Ça joue pour la cinquième tête de série pour les Chargers. Est-ce que c'est un bon test pour Justin Herbert face à une bonne défense? On disait qu'ils étaient un peu plus en rythme sur le dernier match. C'est pas mal de monter en puissance juste avant les playoffs.
Ouais, je suis assez d'accord. Autant il y a des équipes, j'ai envie de dire, bon, il faut reposer les gars et tout. Autant les Chargers, non. Je pense que là, ils sont en train de créer une vraie dynamique. Il faut continuer. Ils affrontent des Broncos qui, entre guillemets, ont eu un match avec le fameux effet nouveau coach. Mais enfin, ça ne va pas durer non plus des masses. En plus, ils n'ont rien à jouer, hein, par définition, les Broncos. Si ce n'est de pas perdre leur place dans le top 5. Ah ben non, parce qu'en plus, ça part chez les Seahawks. Donc, ils n'ont vraiment rien à jouer. C'est terrible.
Oui, même pas la draft. Même pas la draft.
Ouais. Non, même pas la draft. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je pense que les Chargers, en fait, ce que j'attends de voir, moi, c'est la défense qui va mieux, notamment le front seven qui a fait des belles performances. Faut construire là-dessus. Faut continuer à montrer qu'ils peuvent être décisifs des deux côtés du ballon. Et c'est ça que j'attends. Donc, ouais, je joue les Chargers et j'espère qu'ils vont jouer à fond.
J'espère aussi, et je joue les Chargers également. 49ers Cardinals, dimanche à 22h25, le rouleau compresseur San Francisco face à une des équipes les plus tristes de la saison. On a du mal à imaginer, alors je sais que Jared Stidham l'a fait, hein, mais on a du mal à imaginer David Blow qui déborde la défense de San Francisco. Donc je vais aller sur les 49ers.
Oh non, mais moi de toute façon, tu mets même Christian McCaffrey, quarterback, que je vais chez les Niners. C'est, je veux dire, là pour moi, ils doivent les écraser. Ils ont potentiellement une chance d'être first seed si les Eagles perdent. Donc, ils ont quelque chose à jouer. Non, non, ils y vont à fond et à mon avis, ça va être une boucherie.
C'est exactement ça. Les Vikings ont également une opportunité derrière en embuscade de monter dans le classement. Ils jouent les Bears à 19h dimanche. Minnesota qui peine énormément en défense. Mais là, tu dis que le plan de jeu semble quand même à leur portée. C'est-à-dire qu'il faut stopper Justin Fields au sol et puis après voir un peu ce qui se passe, quoi.
Oui, globalement, ça va être ça. Je pense que la semaine dernière a bien montré quand même les limites, on va dire, structurelles des Bears. Bon, de l'autre côté, les Vikings, et je suis même pas sûr qu'ils peuvent même pas jouer de first seed, hein, parce que devant eux, il y a San Francisco, mais il y a aussi Dallas en cas de défaite des Eagles, je crois.
Oui, Dallas a un meilleur bilan de division et un meilleur bilan de conférence, donc oui.
Ouais, c'est ça. Donc, bon, je pense que ça va être un match... ça fait partie de ces matchs un peu sans enjeu, si ce n'est que les Vikings doivent retrouver quand même dynamique après le match, entre guillemets, qu'on attendait depuis des semaines, c'est-à-dire ce match où Kirk Cousins pète un plomb, où ils font n'importe quoi en défense, en équipe spéciale, en attaque. La dynamique, c'est quand même important en NFL, donc finir sur une victoire, ça serait pas mal.
Vikings pour tout le monde.
Yes.
Bengals, Ravens. Alors celui-là, évidemment, il est particulier parce qu'on ne sait pas s'il va se jouer à 19h ou 22h25 au moment où on se parle. La NFL n'a pas encore arrêté le calendrier sur celui-là, c'est le dernier. Probablement encore sans Lamar Jackson, probablement encore une bonne défense de Baltimore. Mais c'est quand même très difficile d'imaginer qu'ils suivent Cincinnati victoire sur ce match. Les Ravens ont gagné 19-17 à l'aller, hein, mais les dynamiques étaient complètement différentes. Là, c'est quand même difficile de les imaginer gagner, justement, s'ils en prennent même 17. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'ils gagnent en en prenant 17, en fait. Parce que je ne suis même pas sûr qu'ils en marquent 15 ou 20. Enfin, je ne pense pas qu'ils puissent en marquer 15, quoi.
C'est déprimant de se dire que les Ravens vont aller en playoff.
Ah ouais, on l'a
non
dit,
mais
on l'a
je veux dire, c'est dingue. Sachant que Lamar reviendra pas, hein. Il y a un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. Je veux dire, ça fait 5 semaines qu'il revient dans 3 jours. On les connaît, ces blessures-là, faut arrêter. Bon, les Ravens seront en play-off, tant mieux pour le seed numéro 3, parce que je pense qu'ils vont être 6. Oui, bah, les Bengals vont peaufiner leur gamme. Ils marqueront peut-être pas un camion de yards, mais en face, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle est apathique, cette équipe. Honnêtement, c'est l'équipe que j'ai le moins envie de voir en playoff. De tous. Elle me déprime. Je sors des matchs des Ravens, je suis déprimé. Ils sont pas, je veux dire, ils sont stéréotypés. Le cahier de jeu est pas ouvert. Je vois pas comment ils battent les Bengals.
Bengals pour tout le monde. Commanders Cowboys, c'est dimanche à 22h25. Quel quarterback pour les Commanders tu fais jouer?
Celui qui aurait dû jouer la semaine dernière, Tyler Heinicke.
Ok.
Donc voilà, non, mais bon, il y a un moment, faut arrêter les conneries. J'avais dit que c'était une décision débile hein, de mettre Carson Wentz. Je continue à penser que c'était une décision débile.
T'es pas tout à fait le seul. Hein,
oui,
façon.
Non, mais on était, c'était unanime. Malgré tout, comme je le disais, je sais pas pourquoi, mais ça fait des années que Prescott déjoue contre les Commanders. Donc, je vais quand même miser Dallas.
Mais il y a un truc. Oui. Vas-y, pardon.
Mais attention à cette défense des Commanders qui, sur une soirée, peut être vraiment top. Et ils peuvent créer des problèmes.
Je voulais juste te dire un mot, revenir sur les quarterbacks des Commanders, toi qui es un de la team draft. On nous a beaucoup demandé dans les commentaires, sur Twitter, etc. Sam Howell, pourquoi il joue pas?
Je sais pas. Peut-être qu'il est nul en entraînement. J'en ai aucune idée. Mais Sam Howell, c'est pas la panacée. Mais pour autant, c'est un pocket passeur qui est plutôt pas mal. Alors, dans une attaque de North Carolina qui est toujours un peu limitée en termes de plan de jeu. Mais pour autant, si Brock Purdy peut avoir sa chance, même si je suis d'accord que Brock Purdy, c'est un concours de circonstances, hein, si Dobbs peut avoir sa chance ou quoi, je ne vois pas ce que tu as à perdre à faire jouer Howell. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je ne veux pas voir Carson Wentz sur le terrain.
Il peut pas être pire que Malik Willis.
Ah bah Malik Willis, alors là, moi, j'avais annoncé la catastrophe un an avant. Mais... J'ai jamais compris. C'est un mec, tu l'as recruté parce qu'il est athlétique. Bon, bah c'est bien, c'est cool.
Mais Howell, il y a un moment où il n'était pas genre annoncé même comme un premier tour au milieu de
saison. Non, avant la saison. Avant la saison, Rattler et Howell étaient censés être les premiers tours. Résultat, il y en a un qui est retourné en université tellement il était mauvais. Et l'autre, il a fini cinquième tour. Mais en plus, Howell, il a été bon en pré-saison. Enfin, il n'y a rien qui explique cette défiance, sauf à ce que, j'en sais rien, il soit un cancer pour le vestiaire, qu'il est nul à l'entraînement, qu'il se pointe en retard, qu'il ne bosse pas, qu'il est en surpoids, j'en sais rien, tu vois. On n'a pas les détails dans les vestiaires, mais c'est assez bizarre, ouais.
Bon, après, on parle d'une franchise qui a choisi Carson Wentz pour revenir jouer la course au play-off. Donc, il n'y a rien qui a à exclure à un niveau ou à un autre. Hein.
Les Washington cochons, hein, maintenant, on les appellera comme ça, parce qu'ils ont une magnifique nouvelle mascotte. Si vous ne l'avez pas vue, ça vaut le détour.
C'est pas facile. Les Cowboys, donc, pour avoir une bonne dynamique, je t'ai laissé dire ce qu'il y avait à dire sur les Cowboys. Je prends les Cowboys.
Moi aussi.
Cowboys également. Bon. Falcons, Buccaneers, pas d'enjeu du tout, mais Tom Brady veut jouer. Il veut se chauffer. C'est ce qui est pas. Alors, on parlait beaucoup de dynamique pour les jeunes équipes, mais mine de rien, les Buccaneers, ils ont presque besoin aussi, non?
Ah bah oui, de toute façon, il faut emmagasiner un peu de confiance. Essayer de gagner un match avant le quatrième quart. Globalement, ça va être toujours pareil. On veut voir du côté d'Atlanta le développement de Reader. Et du côté des Buccaneers, on veut voir si la défense peut refaire une prestation dominante. Le retour de Mike Evans, hein, qui a écouté le podcast.
Oui.
Il m'a écouté dire du mal de lui. Il a dit, écoute, je vais t'expliquer comment ça marche parce que t'as pas l'air de vraiment comprendre. Voilà, si Brady peut travailler un peu sa connexion avec Mike Evans, ça peut être aussi quelque chose d'important pour les playoffs parce que c'est un peu comme Rodgers. Hein. Ils ont été nuls toute la saison, les Buccaneers. Mais est-ce que vraiment t'as envie de prendre Brady en playoff? C'est toujours un peu difficile.
C'est vrai. Tom Brady et les Buccaneers, donc pour moi, pour toi aussi, je suppose. Oui. Les Saints contre les Panthers, toujours pas d'enjeu non plus. Dimanche à 19h aussi. Jeu au sol des Panthers, tu me diras, contre défense des Saints. Moi, je vais te dire, je prends les Panthers parce que Sam Darnold a un contrat à gratter. Il y a des choses importantes dans la vie. Et je me dis qu'il va essayer de finir en beauté. Ils vont marteler au sol, il va faire les quelques passes qu'il faut à DJ Moore. En face, ça va peut-être lancer une ou deux saucisses. Les Panthers pour moi.
Écoute, attends, je fais en direct pile Panthers face Saints. Panthers, voilà.
Okay. Non, mais j'ai pas vu la pièce. Hein,
hein?
Elle était hors champ, la pièce.
C'est un badge parce que j'avais pas de pièce, mais ça marche aussi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est deux équipes qu'on... Enfin, les Panthers ont laissé passer leur chance. Les Saints se sont réveillés trop tard. La dynamique est du côté de New Orleans. C'est à New Orleans. C'est pour ça que Caroline va gagner. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre.
Très bien, on termine avec... Et je trouve que c'est bien que ce soit le dernier match de la saison régulière qu'on fasse dans les pronos. Colts, Texans, dimanche à 19h. Je pense que sur le papier, c'est le pire match de la saison.
Oui, mais il y a un truc qui est très important.
La première place de la draft ?
C'est que si les Texans gagnent, ils sont plus numéro 1 de la draft.
Mais non, j'avais même pas fait gaffe à ça.
C'est les Bears qui sont numéro 1 de la draft, si je ne dis pas de bêtises.
Incroyable ! Incroyable !
Et du coup, les Colts sont en total...
Et oui, t'as raison.
Tu vois, les Colts sont clairement en...
Bon, là, attends. S'ils perdent... Ah oui, mais si Chicago... Oui, mais il faut que Chicago gagne aussi.
Non, Chicago perd.
Chicago se retrouve à 3-14.
Houston se retrouve gagne, à 3-13-1.
3-13-1, oui, en effet, le match nul fait qu'ils sont moins mal classés. Et donc, Chicago serait premier de la draft. Ah oui, incroyable.
Et du coup, moi, je te jure qu'il y a un potentiel rigolo dans ce match. Parce que t'as des Colts à la dérive et t'as des Texans qui doivent pas gagner.
Ah ouais, ça va être n'importe quoi.
Ça va être incroyable.
Et alors, quand je dis que c'est le pire match de l'année, pour moi, c'est parce que t'as Davis Smith, Jeff Driscoll en tandem d'un côté, face à Sam Ellinger qui est de retour du coup, parce que Nick Foles, malheureusement, est blessé, que, bon, visiblement, je pense qu'on veut quand même être sympa avec Matt Ryan et lui éviter ce truc. Donc voilà, Sam Ellinger d'un côté, coaché par Jeff Saturday.
Moi, je vais miser Colts. Parce que je pense que les Texans vont tanker.
Ouais. C'est donc tankage administratif, hein, on rappelle, parce que les joueurs, évidemment, ils lèvent jamais le pied. Donc on va en plus essayer de faire tourner.
Exactement. En fait, faut savoir que le tanking en NFL n'existe pas au niveau des joueurs. Mais il peut exister au niveau des coachs et des présidents. C'est-à-dire, pourquoi je dis n'existe pas au niveau des joueurs? C'est-à-dire qu'on n'est pas en NBA, les contrats ne sont pas garantis. Et tu as 40 joueurs sur 53 qui veulent avoir des vidéos de belles actions pour décrocher un contrat l'année prochaine. Donc, eux, ils vont jouer à fond. Mais c'est vrai pour les Colts aussi. Et les Colts, ils ont une défense qui, sur un match, peut mettre la pression, etc. Donc, je pense qu'il y a un tanking administratif qui va avoir lieu. Et du coup, je mise Indianapolis. Après, on disait ça des Jets quand il y avait Trevor Lawrence. Et puis finalement, ils gagnent deux matchs d'affilée pour perdre Trevor Lawrence et prendre Zach Wilson. Hein.
Ouais, enfin, tu trouves pas que ce qui est arrivé aux Jets devrait servir de leçon
oui,
à tous les autres
certes.
Tu préférerais pas avoir Trevor Lawrence que Zach Wilson aujourd'hui?
Ah, mais c'est sûr, mais du coup, je vais miser les cotes parce que pour moi, il est plus intéressant qu'on le pense.
Ah ouais, je sais pas du coup. Je sais pas,
c'est
tu
dur, hein.
Le doute, mais ouais, c'est dur. Non, mais c'est dur parce que les deux équipes sont vraiment, c'est le désastre, quoi. Attends, ils ont pris combien les Colts là sur le dernier match?
38-10.
Ah ouais, ils ont pris 38-10 contre les Giants, 20-3 par les Chargers, 39-36 quand même par les Vikings,
bah oui,
54-19 contre les Cowboys. Oh la vache, ils se font. Ils en prennent 24 contre les Steelers, ce qui est l'équivalent d'en prendre 50 contre une autre attaque. Et oh ouais, non, c'est. Ils prennent un 26-3 contre les Patriots aussi. Aïe, 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 quel désastre cette équipe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben, ils ont pris un 24-0 par les Jaguars aussi cette année. Ah oui, les deux équipes avaient fait match nul en plus pour le premier match de la saison. Ils avaient fait 20 partout.
Ah, oui.
Ce serait parfait de boucler la boucle avec un autre match nul. Tu vois, ça bouclerait idéalement la saison des deux équipes, je trouve. Un nouveau match nul. Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire de ce truc-là? Je vais dire les Texans. Je vais dire les Texans parce qu'ils sont moins catastrophiques. Mais ouais, et puis ce serait le summum de la loose justement de se priver du premier choix de la draft.
Ah, c'est
comme
sûr.
Ça. Je pense que là, on serait bien. On termine avec les cotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Les cotes avec notre partenaire Unibet, comme toutes les semaines. Victor, est-ce que tu as vu des choses qui t'intéressent?
Alors moi, il y a un truc qui me fait peur. Je vais vous apprendre un truc, si vous ne savez pas. Les parieurs et Vegas, etc., s'ils donnaient des infos au moment où ils les ont, Rapoport, Schefter et tout, ils auraient plus de boulot. D'accord? Parce que Vegas a les infos 6 heures avant Rapoport et compagnie. On l'a vu avec la blessure de Hurts, on le voit à chaque fois. Et les Buccaneers sont à 2,58 contre Atlanta.
Ah oui, dis donc. Pourquoi? Ça veut dire que tout le monde est hors pot?
Bah, je me pose la question, tu vois. Mais vu
là, oui.
Comme ça, moi, je les joue, mais direct.
Ah bah ouais, pourquoi les Buccaneers sont à 2,58 contre Atlanta?
Je ne sais pas. C'est incompréhensible.
Ah bah ouais, alors là, clairement... Alors là, clairement, celle-là, oui, il y a un truc qui m'échappe, là. Il y a un truc qui m'échappe. Mais tu sais quoi, je vais les jouer. Je vais les jouer, clairement. Je croyais que t'allais me dire que t'étais inquiet à cause de la cote des... Ah bah non, je suis bête. Non, j'allais dire la cote des Giants, mais non, ça veut dire que Jalen Hurts va bien, puisque 1-0-9 pour les Eagles.
Donc... Bah oui, ça veut dire que Jalen Hurts va bien et que Daniel Jones sera au repos.
C'est ça, 5,60 pour les Giants. 5,90 pour les Cardinals, il y a des grosses cotes. Hein. 2,65 pour les Lions, si vous y croyez.
Il y a dans le genre des paris un peu safe, là, si on reste dans le safe, et Chargers à 1,52.
Ah, c'est bien ça.
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal les Chargers à 1,52. Et puis, on va finir avec quoi? Il y a les Vikings à 1,34.
Je regarde un peu là, qu'est-ce qu'il y a d'autre de safe, on va dire. Ouais. Oui, pardon.
Rester sur du.
J'avais Cowboys à 1,35, mais c'est kiff.
Oui, voilà. Ouais. Bon, encore une fois, safe, toute proportion gardée, évidemment, on joue de manière raisonnable.
Ah ben ça.
Et on sait qu'on peut perdre cet argent, il n'y a rien de safe.
Partez du principe que vous allez perdre.
C'est ça, moi c'est ce que je dis à chaque fois, vous faites votre petit budget pour l'année, vous jouez ce budget-là, vous dites c'est pour se faire plaisir, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, on reste raisonnable. Les Buccaneers à 2,58, les Vikings à 1,34, les Chargers à 1,52, c'est nos trois cotes de la semaine. Vous pouvez évidemment les jouer séparément, le Buccaneers, ouais, il est... pour le coup, moi je vais le jouer à part, je vais mettre un petit peu d'argent là-dessus, et puis en combiné, ça fait 5 euros misés, 26,27 euros de gains potentiels. YOLO alors ?
Eh ben, le YOLO va commencer par les Rams.
Les Rams à 3-0-2. Les Lions... Bah, les Titans, allez, qui vont en playoff, incroyable. C'est YOLO.
Ouais. Les Panthers à 2,38.
Et les Panthers à 2,38. Ça me plaît. 5 euros misés, 612,73 de gains potentiels si vous rajoutez Titans, Rams et... j'ai dit lequel ? Et Panthers, aux trois qu'on a déjà cités, qui étaient... Chargers, Vikings et Buccaneers. Ça fait 612,73 ce combiné à 6. Évidemment, là, c'est du YOLO. C'est 612 si vous mettez 5 euros, mais bon, c'est un YOLO, donc plutôt mettre 1 euro et ça fait 122,55 €. Voilà.
Si je peux me permettre, Alain, je pense Dis-moi. Qu'on n'a pas redonné les matchs dans l'ordre.
Non, parce que j'avais été à peu près par les enjeux, mais en effet, je peux les redonner dans l'ordre. Tu as.
Parce que en fait, je viens de me rappeler que Jaguars Titans c'était de dans la et nuit samedi, de samedi à dimanche.
Et samedi en effet. Alors, on va le rappeler en effet, samedi 7 janvier à 22h30, pardon, Raiders Chiefs, ce sera le premier match de la semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h15 du matin, Jaguars Titans. À 19h dimanche, Falcons Buccaneers, Bills Patriots, Bears Vikings, Colts Texans, Dolphins Jets, Saints Panthers, Steelers Browns. Le Ravens Bengals, on ne sait pas si ce sera 19h ou 22h25, restez connectés sur le site évidemment pour avoir les dernières infos. 22h25 dimanche, Broncos Chargers, Eagles Giants, 49ers Cardinals, Seahawks Rams, Commanders Cowboys, et enfin dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, le Packers Lions pour boucler la saison régulière. Pas de Monday Night Football en semaine 18, mais un Monday Night Football pour le premier tour des playoffs. Ça devient très très compliqué le calendrier NFL. Cette saison, il y a des matchs qui se perdent de partout, en plus avec Noël, le jour de l'an et tout, là ça a été...
Sachant que t'es pas prêt pour le moment où ils vont... décaler les playoffs d'une semaine et que tout le monde aura une semaine de repos et qu'on aura un Bengals Bills en Monday Night parce qu'il y a un accord avec la Fox ou machin ou quoi.
Ah, ça va être un truc ouais. Je croyais que tu me parlais, t'es pas prêt, je croyais que tu parlais de l'année prochaine ou l'année d'après quand ils vont rajouter un 18e match de saison régulière pour toutes les équipes, donc une 19e semaine de saison régulière, donc les playoffs et le Super Bowl décalé d'une semaine. Bientôt on fera le Super Bowl en juin sur les finales NBA.
Pas tant que le CBA a été signé pour 11 ans. Hein. Donc,
ouais, mais je crois que les
accords TV, ils ont été signés pour 6 ans. Là.
Ouais, mais le passage à 18 matchs, il n'est pas dedans, non ?
Je crois pas.
Je crois qu'il est dans ce CBA, là. Hein. Je crois que c'est progressif, mais qu'il y est. Hein.
Ah ouais, ok. Mais dans ce cas, il faudra 2 semaines de repos, quoi.
Bah ouais, ouais. Ah oui, donc bon, c'est pas grave. Comme voilà, on jouera le Super Bowl en mars ou en avril. Ce sera comme ça, on pourra le jouer dans toutes les villes en plus. Il n'y aura plus besoin d'avoir peur des villes où il fait froid parce qu'il fera chaud partout au moment où on jouera. Donc voilà. Et tout le monde s'en mettra plein les fouilles. On appelle ça la méthode Gianni Infantino. Et voilà, en fait, la NFL, c'est un peu la FIFA Lite.
Est-ce que tu penses que le Super Bowl va être joué à Doha avant 2030?
Hein. Tu sais quoi, j'ose même pas répondre, je ne sais plus. Bon, voilà, en tout cas on fait un peu léger parce que c'est vrai que ça a été une semaine un peu compliquée, donc voilà,
on espère qu'on vous a permis de vous détendre un peu parce que, enfin, je veux dire, c'est lourd et l'ambiance rajoute à ça, donc autant essayer un petit peu de vous redonner la tête au football, ça permet aussi de s'aérer l'esprit.
Exactement, c'est notre humble boulot, c'est aussi de vous aérer l'esprit. Merci beaucoup Victor, on termine comme ça cet épisode 568, on vous remercie de nous soutenir. Comme d'habitude, vous laissez des étoiles, des commentaires sur Tipeee, sur toutes les plateformes pardon, de podcast. Vous pouvez nous soutenir également sur Tipeee, il y a des nouveaux sous-verts qui sont arrivés, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, les liens vers le podcast aussi. Tous les liens de toute façon sont sur tdactu.com. Merci beaucoup Victor, vous parlez quoi dans le podcast Draft demain ?
Eh ben, on va parler de la finale nationale qui aura lieu lundi et des joueurs à suivre durant cette finale, ceux qui vont être haut dans la draft.
Nickel. Et on un petit coucou à Greg qui est au moment où on se parle dans son avion qui va vers la finale universitaire. Donc bon match, bon match à lui, qu'il s'amuse bien. Et l'émission rétro, ce sera de la draft, ce sera la draft de 2019 avec la sélection de Kyler Murray notamment, la sélection de Daniel Jones. C'était pour faire un clin d'œil au retour des Giants en playoff. Donc la sélection de Daniel Jones au premier tour par les Giants. Et évidemment, l'inoubliable sélection victoire de Clelin Ferrell en quatrième position par les Raiders. Vous allez voir, ça nous avait un petit peu étonné.
Ah oui, c'est cette draft-là. Mais du coup, attends, s'il y a Daniel Jones, il y a Dwayne Haskins aussi, alors.
Oui, oui.
Le regretté de Dwayne Haskins.
Oui, la rediff, c'est le top 15 en plus, la rétro, donc pile poil jusqu'à Dwayne Haskins.
Donc, paix à son âme.
Paix à son âme, en effet. Merci beaucoup, Victor, encore une fois, et on vous dit à très vite sur les antennes de TD Actu. Très bonne journée. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.